I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il y a mon copain qui me disait quand tu travaillais sur Vue du Ciel, t'étais insupportable. Et est-ce que tu sais qu'il y a un mec qui a été viré à cause de toi? Tu l'as tellement engueulé qu'il a été viré. C'est très injuste. On en parle il y a 15 ans. Et je dis, ah bon? Il m'explique. Du coup, je retrouve le mec pour m'excuser. Le mec, il vit à Los Angeles. Et je l'ai appelé. Je dis, écoute, salut, c'est Yannard Supertramp. Là, j'ai appris ça. Je voulais m'excuser. Le mec, c'est pas grave. Il y a longtemps que j'ai oublié. Mais toi, ça me faisait chier de penser qu'un mec était. Et donc, il fallait que je le retrouve pour m'excuser. Alors, ça l'a fait rigoler. Et voilà. Et c'est bon. Je sais pas s'il m'a pardonné, mais en tout cas, je l'ai fait. Et c'était bien de le faire. Voilà.
Exécuté par
qui?
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi, à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a amené à son succès, depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si vous aimez ce podcast d'ailleurs, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et sur mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu, c'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. Un grand merci à vous et bonne écoute. Salut
merci.
Yann.
Merci beaucoup.
On y va ?
Oui, salut Yann deux fois parce que j'ai demandé un verre d'eau.
Re-salut Yann.
Salut.
Comment ça va ?
Ça va pas mal.
Ça me fait très plaisir de t'avoir dans mon podcast, vraiment.
Tu dis ça à tout le monde. Hein.
Non, c'est faux.
Ah, tu dis à des gens, je n'ai pas du tout envie de vous avoir dans mon podcast.
Non, mais toi,
merci d'avoir accepté.
Toi tout particulièrement, parce qu'en fait, bon, j'ai lu ton livre, j'ai vu le film. Enfin, vraiment, ton histoire me parle beaucoup. Et en fait, je voudrais démarrer l'interview et cette discussion. En fait, ce n'est pas vraiment une interview, par les dernières lignes de ton bouquin. D'accord, ça m'a beaucoup parlé et je crois que ça va colorer un peu toute la discussion. Tu termines donc ton livre qui s'appelle Legacy par l'abondance de mes projets et sans doute à la mesure de mon angoisse. À l'heure de finir ce livre, les pensées se mélangent dans ma tête. Alors ensuite, tu parles du rapport du GIEC, tu parles de la manifestation anti-vaccin qui rassemble 4 fois plus de monde que la marche pour le climat. Enfin, tu racontes 2-3 anecdotes. Après, tu dis, c'est la maladie de Parkinson de ma femme, Anne. Je ne m'occupe pas assez d'elle et pourtant, elle a fait tellement pour moi. C'est sur mon téléphone, la photo de mes 6 petits-enfants qui me sourient. C'est ce sentiment de l'amour donné et surtout reçu qui a fait ce que je suis. En vieillissant, j'essaie de le mettre au centre de ma vie et il m'empêche de me résigner. C'est pour cela que j'ai envie de dire à toi, qui lis cette dernière ligne, que je t'aime. Je t'avoue, tu m'as scotché là. Enfin, tu m'as scotché tout le livre, mais vraiment.
Je parle aussi de... Sur une aire d'autoroute d'un camion bourré de cochons qui partent à l'abattoir, ils vont tous, j'arrive à côté, ils me regardent tous et les larmes me montent aux yeux. D'abord parce que je m'aperçois qu'en fin de compte, tout ce qu'on vit en ce moment, c'est un manque d'amour. C'est nunuche et basique tout ça, mais si on était imprégné d'amour pour nos enfants, pour la vie autour de soi, est-ce qu'on réagirait comme ça? Est-ce qu'on serait dans cette banalité du mal dont je parle dans le livre justement, où tu manges de la viande industrielle, c'est pas grave, tu prends de l'avion, c'est pas grave. Tu vois, tu dis pas bonjour à la personne qui t'a souri, c'est pas grave. Tout ça, quelque part, en vieillissant, je m'aperçois que c'est l'essentiel de la vie, quoi. De savoir aimer, de savoir le dire. Et plus que ça, je raconte dans le livre, mais cette rencontre que j'ai eue avec quelqu'un à Madagascar, qui est une agricultrice de subsistance, tu vois, les gens qui ne vendent rien, qui travaillent tous les jours, comme une espèce de sacrifice quotidien, qui travaillent la terre. C'est des gens qui font beaucoup d'enfants, parce qu'ils n'ont pas de tracteur ni de, de, d'animaux, pour les aider à travailler. C'est des gens qui ont peur de la météo, qui ont peur d'être malades, parce que si elles sont malades, ils peuvent pas nourrir leurs enfants. C'est une femme qui avait eu 16 enfants, dont 6 étaient morts. Donc, tu vois, très, très éloignée de ce que je suis, et en même temps très proche, parce que, comme moi, elle a peur de la mort, comme moi, elle souffre, c'est un être humain, donc on est la même famille que moi, quoi. Et dans ces interviews qu'on faisait pour Human, où on demande à tout le monde les mêmes questions, à un moment, on lui demande quel est votre plus grand rêve. Alors, elle me parle, bien sûr, de l'éducation, de la météo, de la politique. Je lui dis non. Toi, en tant qu'être humain, en tant que femme, quel est ton plus grand rêve? Et elle me dit une chose que je trouve magnifique, à laquelle je pense tous les jours. Elle me dit, j'aimerais mourir avec le sourire. Ça veut dire quoi, mourir avec le sourire? Ça veut dire qu'on va tous mourir un jour. Voilà, qu'on le sait tous. Et que tu mourras avec le sourire, tu vas mourir avec le sourire seulement si t'as donné du sens à ta vie, si t'as fait ce que tu voulais faire, si t'es content de ce que tu as fait. On fait plein d'erreurs, c'est normal, mais il faut assumer qu'on a fait des erreurs, le reconnaître, s'excuser, essayer de réparer si on peut, mais surtout dans cette dynamique d'aimer ce qu'on fait, de savoir qu'on était utile aux autres, utile à la vie, qu'on a fait. C'est un peu confus ce que je dis, mais oh non, mourir avec le sourire, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter ta mort parce que t'as fait ce que t'as voulu faire. Et alors c'est un graal impossible de mourir avec le sourire, mais c'est... Et je pense que à 75 ans, où tu perds des copains autour de toi, où tu es plus près de la mort que t'as jamais été, c'est une réflexion. Et moi, je suis. Et tu vois, je vois beaucoup de. Je projette souvent mon film Legacy. J'étais l'autre jour dans une école d'ingénieurs et incroyable retour qu'on a sur ce film sur les jeunes de 22-23 ans qui s'intéressent à l'avenir. Je veux même pas te dire ce qui s'est passé parce que mon ego en prendra un coup, mais vraiment un enthousiasme incroyable. Et je leur dis à tous, soyez heureux dans ce que vous allez faire, aimez ce que vous faites et ayez l'impression d'être utile. Et c'est un discours que les jeunes comprennent hyper bien aujourd'hui et qui est très nouveau, en tout cas autour de moi. En tout cas, je suis arrivé à cette conclusion-là, quoi. Quelque part, ce qu'il faut, c'est dire, ce qui est important, c'est pas les centrales à charbon qu'on ouvre toutes les semaines en Chine, c'est qu'est-ce que je fais moi, quoi. Qu'est-ce que je fais de ma vie. Et c'est très personnel. Tout ça te permet d'accepter ce qui est en train d'arriver. Là, j'étais à Glasgow, et bien sûr, je suis pas déçu, parce que moi, je sais bien que les COP ne servent à rien, mais quand j'ai manifesté avec tous les jeunes dans la rue, il y avait ce sentiment de s'aimer ensemble sur une même cause, tu vois, pour sauver la vie. Et qu'est-ce qui est le plus important que sauver la vie? Qu'est-ce qui est le plus fondamental? Et c'est certainement je pense qu'il y a un manque d'amour. L'amour, c'est un truc qu'on a tous en nous. On naît avec l'amour, avec l'empathie qu'on a pour ses parents. C'est quelque chose qui est inné chez nous. C'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'on est certainement arrivé. Coopération, intelligence, empathie. Voilà, à faire ce qu'on a réussi à faire du monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, voilà, ce sentiment, et c'est souvent un peu, tu vois, compris comme un peu nunuche, comme en bêta, comme de la gentillesse. Mais, moi, je pense que les mots gentillesse, bienveillance, sont les mots. J'ai écouté l'autre jour une journaliste qui disait, il y en a marre d'entendre parler de la bienveillance tout le temps, tu vois. Bah, non, oui. Moi, je suis pas dans un...
C'est sûr qu'il y en a beaucoup trop dans ce monde, quoi, tu vois. On se dit, oh là là, on déborde de bienveillance, tu c'est vois, fou.
Il y a beaucoup de cynisme, de scepticisme sur toutes les bonnes actions, et c'est un peu... Et j'en parle un peu dans mon bouquin, tu vois. L'autre jour, j'écoutais une critique sur France Inter de Woman, où le mec dit, heureusement que Yann Arthus-Bertrand arrête de prendre l'avion, il va arrêter de nous faire chier avec ses documentaires. Tu te dis, mais attends, est-ce que le mec, il a vu le film, quoi? Alors, je peux être un parfait con, mais j'ai essayé quelque chose, quoi. C'est un film qui donne la voix aux femmes. On n'est pas en avant sur ce film, tu vois. Et je me dis, mais comment est-ce qu'un mec qui parle à la radio, à la télé, qui est écouté par centaines de milliers de personnes, se permet de dire ça, quoi, tu vois? C'est pas contre moi, je m'en fous ce qu'il dit sur moi. C'est ce manque de voilà, d'amour sur tous ces gens qui nous ont raconté leur vie. C'est un film que tu peux pas le voir sans avoir les larmes aux yeux. C'est tellement addictif, tous ces gens qui parlent. Voilà. Et ce sentiment d'intérêt pour les autres, pour l'être humain, il a tendance un peu à disparaître. Et ça me rend triste.
Mais tu vois, tu devrais pas dire que c'est nunuche. Parce qu'en fait, en disant que c'est nunuche, t'es aussi en train de justifier le fait qu'il y a des gens qui disent que c'est...
Parce que ça fait très longtemps que moi, quand je finis mon livre en disant je t'aime, parce que je fais très... pratiquement toutes mes conférences, je finis par dire ça. Je leur dis, en fin de compte, il n'y a que ça. Et donc, j'ai été attaqué. Non, j'ai eu le droit à une dernière page de Libé qui me traitait de nul. Mais c'est pas grave. J'assume mon côté nul. C'est pas. Mais tu... Enfin voilà, je pense que plus ça va, plus j'essaye de mettre l'amour, la bienveillance, l'éthique, la morale, le bien et le mal en fin de compte.
Je crois qu'on manque beaucoup d'amour de soi déjà, tu vois.
Exactement. Oui.
Le problème du manque d'amour de soi, c'est que tu finis par le répercuter sur.
Peut-être que je suis quelqu'un qui m'a toujours trop aimé, donc j'ai pas ce sentiment.
Je crois que c'est ça ton problème.
Exactement. Trop d'ego.
C'est ce qui fait que tu fais ça. Mais
j'assume. Puis je lutte contre ça. C'est Ricard qui dit, Mathieu Ricard, que le vase de l'ego sent le rance. C'est vrai. Voilà.
Ouais, mais en même temps, tu te mets pas en avant dans tes films, quoi. Tu vois, tu pourrais être beaucoup plus à l'image, etc. Quoi.
Dans le cas-ci, je suis à l'image quand même. Je trouve que c'est bien. Voilà.
Il y a autre chose aussi dont je voulais te parler. Oui. C'est merci beaucoup. Parce qu'en fait, à 75 ans, je te vois là, tu viens de rentrer dans la pièce. Bon, les gens l'ont pas entendu, mais t'es rentré dans la pièce, il y a un coup de fil qui a sonné. T'es reparti aussi vite, t'es parti discuter. Je t'entendais, oui, il faudrait faire ceci, machin, le projet, etc. Écoute, merci, parce que moi, j'ai grandi dans une génération, tu vois, j'ai 44 ans, donc je pourrais être ton fils, hein, mon père à ton âge, où on t'a dit, en fait, la retraite, c'est super, la retraite, c'est génial, etc., etc. Alors, j'adhère pas du tout à ça, tu vois. En fait, il n'y a pas assez, je suis désolé.
Deux choses. Là, j'étais au téléphone avec la directrice de la communication de La Poste, parce qu'on a lancé un projet, alors ça dure un petit peu, on a le temps de parler.
On a le temps.
Je fais un film qui s'appelle France, une histoire d'amour. Et en fin de compte, c'est un espèce de film ou c'est un espèce de road movie à travers la France que j'aime. Et en même temps, je vais aller dans des rencontres compliquées. Je vais visiter un abattoir avec, je voudrais voir avec un agriculteur qui met beaucoup de pesticides. Tu vois, aller discuter avec des chasseurs qui respectent pas les lois.
D'aller voir des gens avec qui t'es pas
d'accord. Aller voir les gens, je suis pas d'accord, pour voir comment est-ce qu'on peut, tu vois, s'organiser. Et un jour, je pour faire ce film, je monte un studio photo. Je pars d'ailleurs dans quelques jours faire les tests de ce film. J'avais fait un studio photo à Boulogne, Boulogne-Billancourt, et j'avais été à La Poste, et il y avait une dame qui pleurait devant le comptoir, qui expliquait la mort de sa mère. Et elle dit, à un moment, elle dit au préposé, je dois vous emmerder avec mon histoire. Et le type ne répond pas du tout, madame. Ça vous fait du bien, ça me fait du bien à moi aussi, je suis là pour vous écouter. Avec beaucoup d'empathie. Et j'en parle au directeur de La Poste, qui me dit, mais vous ne savez pas le rapport incroyable qu'ont les facteurs avec les gens. Et je réfléchis, je me dis, dans mon film, où je vais rencontrer des Français, le facteur peut être un super moyen d'entrer chez les gens, tu vois, chez les Français, parce qu'ils vont tous les jours chez les gens. Les facteurs, leur tournée leur appartient. C'est-à-dire que s'ils veulent rester toute leur vie à la tournée, ils peuvent le faire. Donc ils peuvent rester 40 ans. Donc vous voyez des générations passées. Ils pénètrent dans la vie des gens. Ils amènent les bonnes, les mauvaises nouvelles. Ils parlent aux gens, quoi. C'est assez formidable. Et je me souviens de ma factrice que moi j'adore, que je connais bien. Du coup, j'ai accompagné ma factrice pendant 3 jours dans sa voiture avec mon iPhone pour faire un petit peu un test pour mon film. Du coup, on va faire le film qu'on tourne. On tourne à l'iPhone. Donc toi, c'est
génial.
Voilà, tu vois. Donc ça, c'est marrant. Ça nous permet d'avoir une proximité très très proche avec les gens. Et le film a été arrêté à cause du Covid. Et pendant le Covid, on a imaginé avec la communication, directrice de la communication de La Poste avec qui on a parlé, j'ai demandé à tous les facteurs de France de photographier leurs Français, les Français qu'ils avaient avec leur appareil qui scanne les colis. Et on a reçu 30 000 photos. Voilà, dans 30 000 photos, donc elle me demande comment est-ce qu'on va les exposer. Voilà, wow. Donc on avait une fois un chapeau numérique. En fin de compte, on va faire des photocopies qu'on va mettre sur des grands murs. Donc voilà, donc c'est 30 000 photos faites par les facteurs. Je discutais avec elle de ça et c'est un projet que je trouve marrant, rigolo. Je suis bénévole là-dessus, mais c'est vraiment un projet qu'on a lancé qui m'intéresse et en même temps ça me nourrit pour mon film qu'on fait sur la France derrière. Voilà.
T'as compris pourquoi je te parlais de ton âge? Parce que pour moi, il y a un côté rôle modèle qui est génial.
Alors tu veux, d'abord, j'ai jamais pensé de retraite parce que moi j'ai jamais été employé de ma vie, je suis un indépendant, Puis moi, j'adore ce que je fais. J'ai jamais été si occupé. On fait un film sur les réfugiés, mais en ce moment, j'ai une équipe qui arrive du Mexique, de Colombie, qui ont été, rien que de m'en parler des interviews qu'ils avaient fait, ils pleuraient sur une visio en racontant. Donc, c'est très émouvant. Je pense qu'on va faire un grand film. On fait ce film France, une histoire d'amour. On est en train de faire ensemble pour France 2 un film sur la biodiversité. En ce moment, j'essaye de, dans tous mes films, de collaborer avec beaucoup d'autres personnes pour la biodiversité. On a demandé à tous les gens qui filment en France de nous envoyer des images. On a reçu 400 heures d'images d'animaux. Incroyable. Et donc, on fait un gros programme sur France 2 avec toutes ces images. Vous racontez la biodiversité. Et on fera sans doute ici à la Fondation toute l'exposition qui est en ce moment sur les océans. Ça sera une exposition sur la biodiversité bientôt. Donc voilà, on est en train de... Et je trouve que quand on a fait Legacy, par exemple, mon dernier film que j'aime beaucoup, qui est d'ailleurs libre de droit sur le net en France...
Sur M6, hein.
Sur Replay M6. Ouais. On a demandé à des dronistes aux États-Unis, en Chine, au Brésil, en Pologne, de tourner les images pour nous. Ça nous évite de nous déplacer et les images sont pratiquement aussi bien que si nous qui l'avions fait. Ouais, on pense toujours qu'on aurait pu faire mieux, mais
oui.
Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est de faire travailler des gens, de faire des gens autour du monde qui font la même chose que toi sans avoir besoin de se déplacer. Voilà. Et ça crée une collaboration. J'aime ce côté, voilà, de faire travailler des gens dans le monde entier.
Tu utilises l'intelligence collective.
Voilà, exactement. Je pense que c'est une chose qui sera de plus en plus. Hein. Ça, c'est évident.
Avec le Covid et tout, tu veux dire ?
Non, avec le Covid, avec le
pas globalement l'état de la planète aussi.
Quand je faisais mes films en hélico, on était très peu à tourner. On avait une caméra compliquée, lourde, chère. On pouvait pas demander des images. C'était très très compliqué. Aujourd'hui, c'était moi. J'aurais jamais fait je ferais plus la Terre vue du ciel aujourd'hui parce que tout le monde a des drones. Donc tout le monde, c'est plus nouveau ce qu'on fait. Toi, donc dans ce que je fais moi, c'est beaucoup beaucoup plus facile de travailler avec d'autres personnes qu'une 10 ou une quinzaine d'années. Voilà.
Ok.
Et puis il faut savoir aussi que moi quand j'ai commencé la photographie aérienne pour la Terre vue du ciel, on n'avait pas comme aujourd'hui sur nos téléphones toutes les photos de ta maison par Google Earth, tu vois. Donc la photographie aérienne était quelque chose de très très nouveau. Aujourd'hui la photographie aérienne ça n'est pas de plus personne parce que d'abord tous les photographes ont un drone dans leur sac, donc il y a beaucoup de photographie aérienne, puis surtout sur ton téléphone t'as la photo de ta maison, quoi.
Waouh. On va parler de ton enfance, si tu veux bien.
Ouais.
La première question que je pose à tous mes invités, c'est en fait à quoi tu ressemblais, Yann, quand tu avais 7-8 ans ?
Je sais pas.
Tu sais plus ?
Je sais pas. Si. Je retrouve des photos d'école, des gens qui m'envoient des photos, En fin de compte, c'est assez curieusement, c'est pas une période très intéressante pour moi. C'est une période famille de 6 enfants, très bourgeois, très classique, gâteau, messe tous les dimanches, vacances en Bretagne, on va pas à la montagne, ça coûte trop cher, on va tous les week-ends dans la maison de ma grand-mère dans les Yvelines, et on ramène, je me souviens parce que mon père il travaillait chez Arthus Bertrand, qui est une boîte d'insigne militaire.
De la boîte familiale, donc.
Voilà, voilà. Oui, il avait un pick-up 203 Peugeot, et on faisait un truc que aujourd'hui, tu n'imaginerais même pas ça. Tous les gosses, à part le dernier qui devait être avec ma mère devant, on était derrière, en vrac, sur le pick-up, assis sur des cajots de pommes, tu vois, des cajots de pommes, derrière avec sans doute une fille au père, je pense qu'on n'était pas tout seul, je pensais pas qu'à 8-9 ans, j'étais tout seul dans le pick-up, certainement avec un adulte, et on était là, derrière, une enfance... J'ai pas beaucoup de souvenirs en fin de compte. Ça a commencé à déraper quand vers les 10-12 ans où là j'en pouvais plus, quoi. Je pouvais plus de l'école, j'étais très mauvais, à tout m'emmerdait. Et donc les rapports sont difficiles parce que mes parents savaient plus quoi faire. J'étais viré de partout, j'allais de psy en psy. C'est l'époque et mes parents étaient, comprenaient pas quoi, qui étaient super obéissants à leurs parents, des gens qui avaient été dans les règles, ce qu'on devait faire, et moi je cassais tout, quoi. Donc voilà, c'est pas une période. Mais j'étais pas malheureux. J'ai rendu certainement mes parents malheureux, mais moi je l'étais pas du tout. Voilà.
Comment ça se caractérisait alors? Comment t'es devenu après ce passage où t'es parti en couille, comme tu dis, ou je sais plus quel terme t'as utilisé. T'étais sans doute pas aussi vulgaire.
Non, mais quand je suis parti en couille. Mais quand j'avais 16-17 ans, j'ai commencé à traîner dans les boîtes, à sortir. Bon, j'ai eu une période très très trouble à ce moment-là. J'ai pas fini pour en parler, mais j'étais voilà, je vivais avec une prostituée à Pigalle et tout, mais, tous mes amis quand j'avais 18 ans. Ben, ouais. Voilà, mais il y a un truc assez marrant, c'est que quand on était dehors dans la rue, quand je partais de chez moi, les flics m'ont ramené, puis après mes parents ne pouvaient plus me tenir quoi. Et mes parents étaient assez sympas parce que ils voulaient me mettre en pension dans un truc militaire, tu vois. Il y a une école militaire qui est très connue, mon père voulait me mettre là-bas. Et il s'est rendu compte que je serais malheureux. Donc il m'a laissé, en fin de compte, il m'a laissé vivre ma vie. Je ne peux pas dire que c'est... Voilà, avoir un gosse... C'était à l'époque où on était majeur à 21 ans, hein, donc c'était un peu plus compliqué. Mais quand je partais de chez moi avec des copains, et on dormait dans les cinémas. On rentrait par la porte de sortie le soir, et on dormait dans les cinémas. C'est comme ça que j'ai vu Citizen Kane un paquet de fois. Il y a deux films que j'ai vu beaucoup, ça s'appelle Le Fanfaron, avec Gassman et Trintignant, qui étaient au cinéma Le Biarritz, on pouvait rentrer facilement. Voilà. Je connais le film par cœur. Et Citizen Kane, j'ai dû voir au moins une vingtaine de fois, ce qui est pas mal. Voilà, c'est pas mauvais, hein, c'est pas un mauvais film.
Bah non. Voilà.
Et c'est l'époque où tout ça, ça paraît incroyable. Il y avait un cinéma sur les Champs-Élysées qui s'appelle Cinéac, qui passait justement Citizen Kane, et on passait les actualités au cinéma. Je sais pas si t'imagines, ça nous paraît, mais je me souviens très bien d'avoir vu au début des films, il passait, il y avait 20 minutes. Bon, c'est le début de la télé, il y avait déjà la télé, mais il passait au cinéma, des actualités, voilà, sur le monde, voilà, c'était assez incroyable, quoi. C'est là où tu vois que t'es vieux. Mais j'ai 75 ans, mais j'ai pas du tout l'impression d'avoir 75 ans. Ouais. J'ai vraiment l'impression d'avoir 20 ans, quand t'as toujours aussi envie de rigoler. Je suis peut-être plus sérieux qu'avant, quoi. Je suis tellement pris dans mon truc en ce moment de tout ce qu'on fait, ces projets, que ce soit sur les réfugiés, sur la biodiversité, le changement climatique. En fin de compte, je suis un peu enfermé dans une espèce de bulle et j'ai du mal à m'intéresser à autre chose. C'est un peu restrictif.
Ouais.
Mais j'ai du mal. Enfin, je le fais quand même, mais voilà. En fin de compte, je vois plus mes amis s'ils sont pas dans ce milieu-là, si on parle pas de ça. C'est pas bien, mais voilà. J'ai du mal, je perds des amis, et j'ai des amis qui m'aiment, on se voit plus. Mais c'est des gens que j'ai plus envie de voir, parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts. C'est idiot, hein,
c'est intéressant.
Ouais, ouais, tu vois. Voilà, j'ai envie de parler que ce qui se passe en ce moment, que je trouve que c'est tellement passionnant ce qui arrive. Et
souvent, les gens qui n'ont pas forcément conscience, tu vois, des aspects environnementaux, etc., surtout que toi, tu travailles là-dedans, donc c'est poussé, ouais. Ils ont un peu une dissonance cognitive, tu vois. Et toi, quand t'es sorti un peu de. Tu sais que t'as pris la fameuse pilule rouge.
Oui, c'est les emmerdes. Après, ils parlent d'autre chose. J'étais dans un dîner, c'était hier, avant-hier, où je commence à parler de changement climatique. Et là, il y a quelqu'un qui se lève et qui va s'endormir sur un canapé. Tu vois. Il en avait marre. Je ne comprends même pas quand on parle d'aussi importante, et tout à discuter, on était deux ou trois à discuter, Glasgow et tout, qu'on s'échappe d'une conversation comme ça, qui parle de ton avenir, en fin de compte. Toi, c'est super important.
Il y a un côté.
Mais il y a envie de. On n'a pas envie d'entendre parler. Quoi.
D'échapper.
Ouais, envie d'échapper à ça. Quoi.
Je comprends.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Commencé dans le cinéma, ta carrière. Enfin,
oui.
T'as même joué dans des films.
Oui.
C'est fou, ça.
Oui.
Pas très longtemps.
J'étais fasciné par le people. Donc, on traînait un petit peu vers les studios de Boulogne. Un jour, on m'a demandé de balayer. Voilà, après j'ai amené les cafés, on m'a donné un peu de blague, et puis je suis devenu assistant, voilà, bon.
Génial,
un jour j'ai fait un test, et je me suis retrouvé à Saint-Tropez en train de faire un film avec Michel Morgan. J'avais loué une voiture américaine décapotable, et j'ai dépensé, on a un mois et demi de tournage, ce que mon père gagnait en un an, voilà, avec mes copains, et mon père était pas très content. Et j'avais émietté sa signature pour faire le contrat.
Ok.
Mais ouais.
Mais c'était le prix de la liberté, j'imagine, pour toi.
Tu sais, je vivais au jour le jour à ce moment-là. J'étais, voilà, j'étais grisé par tout ce qui m'arrivait, quoi, tu vois. Le succès, je suis assez opportuniste. Non, j'étais, voilà, j'étais un gosse lâché en liberté, hein. Le parfait con, hein, quand t'es adolescent, là, tu découvres la vie, je découvrais les sexes, voilà, j'étais épaté par ce monde-là qui me sortait tellement de ce que j'avais chez moi, quoi.
Et 10 ans plus tard, c'est en fait, quand t'as 30 ans, c'est ça, tu pars au Kenya avec...
Oui, alors moi,
entre-temps, j'imagine que t'as trouvé ta femme, c'est ça?
Oui, en ce moment, je tombe amoureux de la mère de mon meilleur ami, qui avait donc 26 ans de plus que moi. J'ai vu une très belle histoire d'amour avec elle. Et elle avait une grande propriété dans l'Allier, pas d'argent du tout, mais grande propriété. Et ensemble, on crée une réserve zoologique là-bas. Elle était folle d'animaux, donc elle avait des sangliers, des renards apprivoisés. Et puis doucement, on ouvre au public, et puis les gens nous apportent des animaux. C'est la grande époque aussi de la découverte des animaux. C'est l'époque de Thoiry, des émissions de François de Lagrange sur France 2, qui est des émissions... c'est des émissions où on amenait des lions sur le plateau, tu vois, des trucs où tu dirais ça aujourd'hui, tout le monde hurlerait, tu vois. Et donc, c'est l'époque aussi où on pouvait importer n'importe quoi comme animal. Donc, les gens revenaient de voyage avec une panthère qu'ils avaient apprivoisée, c'est plus quoi en foutre, donc ils nous la donnaient. Donc, on se trouvait avec beaucoup d'animaux imprégnés, on dirait aujourd'hui, chez nous. Moi, j'élève beaucoup de lions, j'étais passionné par tout ça. Et on ouvre, et quand je pars, on avait 200 000 visiteurs par an, c'est devenu la plus grande activité touristique de la région. Et ceci, elle m'a fait confiance. Elle m'a dit, ben voilà, on travaillait à deux, mais elle a aimé mon sens d'organisation. Voilà. Et donc, ensemble, on a créé une réserve de. Surtout, elle m'a fait confiance. On a créé ensemble. Vous savez, quand les gens te font confiance, ça change tout, hein. Que tu donnes le meilleur de toi, quoi. Voilà. T'as des moyens. Doucement, d'un petit château classé monument historique, on en a fait une réserve zoologique qui était la première centre touristique de la France, avec deux restaurants. Et l'histoire d'amour s'arrête, et donc je m'en vais, en abandonnant tout ça, d'ailleurs, avec le regret, pas forcément d'une façon très...
C'est fou, t'as mentionné quand même, je te coupe, mais que c'était la mère de ton meilleur ami.
Ouais, ouais.
Quelle histoire.
Oui. J'avais vraiment la même différence d'âge qu'entre les Macron. C'est comme ça, et j'étais très amoureux. D'ailleurs, c'est rigolo, parce que à cette époque-là, c'était assez honteux, tu vois. On se cachait pas, mais c'était vraiment quelque chose. Alors que toi, chez les Macron, ça ne choque personne, en fin de compte. C'est normal. Et voilà, on a beaucoup évolué là-dessus, quoi.
Bah, je crois que quand il était plus jeune, peut-être, c'était pas aussi évident que ça.
Enfin, tu vois-t-il que... Ouais. Et c'est bien, hein, voilà. Et donc, c'est une vraie histoire d'amour, en plus. Hein. Et donc, voilà, j'étais plutôt heureux de tout ça. Et puis, les gens comptent ma nouvelle femme et on part ensemble au Kenya.
D'où vient cette idée de partir ensemble au Kenya comme ça?
Parce que j'avais chez moi, quelqu'un m'avait donné un chimpanzé. Un chimpanzé, quand tu l'as petit, c'est vraiment un animal qui te prend comme ses parents et qui a des relations avec toi très très fortes. Il y a un ou deux chromosomes de différence entre le chimpanzé et l'homme, donc vraiment. Et donc ces chimpanzés, c'était un peu comme notre enfance, tu veux, quelque part. Et ils vivaient avec nous, ils mangeaient avec nous, voilà. Et donc je me passionne pour les chimpanzés, donc je lis le bouquin de Jane Goodall sur les chimpanzés et moi, et je me dis, j'aimerais bien faire la même chose sur les lions au Kenya, puisque j'avais élevé énormément de lions, je connaissais bien, ça me passionnait, donc voilà. Et ce qui est formidable en France, c'est que à cette époque-là, en tout cas, moi je me suis dit, je veux devenir scientifique. Voilà, c'est ce qui me manquait, j'avais fait qu'une étude. Et donc je pars au Kenya et je propose à Pierre Pfeffer, qui était directeur du muséum, de faire un doctorat, une thèse sur le comportement des lions au Maasai Mara par rapport à un autre troupe de lions, qui avait une étude qui avait été faite par George Scheller, qui était un scientifique connu, entre la différence entre donc ces lions du Kenya et les lions de Tanzanie du Serengeti. Donc, parce qu'en fin de compte, la nourriture, le territoire change le comportement des lions. Bien sûr, des lions, ils sont opportunistes, ils choisissent, voilà, ça, autant les lions au Serengeti bougeaient énormément, autant dans le Maasai Mara, ils restaient tout le temps à la même place. Et ce qui est rigolo, c'est que les lions sur lesquels j'ai travaillé dans le Maasai Mara, encore aujourd'hui, 40 ans après, c'est les mêmes descendantes de ces lions qui sont encore là. que le territoire appartient aux lions. Donc voilà, donc aux lions. Et les lions ne sont que les hôtes de passage et qui se bagarrent pour entrer. Donc on passe 3 ans à travailler sur cette thèse. Moi, je la fais en photo, ma femme écrit. Et en fin de compte, on publie un livre en rentrant chez Hervé de Lamartinière. Et on ne soutient pas la thèse parce qu'on avait fait un peu le tour du truc. Et la photo m'avait passionné. Et je dis souvent que ce sont vraiment les lions qui m'ont appris la photographie, qui m'ont appris la passion.
Parce que tu ne faisais pas de photo du tout avant, c'était pas...
J'en faisais un petit peu, mais pas... Mon père a toujours aimé la photo, mais je n'étais pas photographe. Quoi. Alors que là, véritablement, tous les jours, je suis avec mon boîtier, mettais l'objectif, et voilà, donc...
C'est fou quand même ta vocation qui t'arrive à 30 ans, quoi, tu vois.
Non, parce que même quand avant, à 20 ans, je faisais dans cette réserve, c'était aussi ma vocation. J'étais, j'ai créé là, j'avais des employés, je m'occupais d'animaux, j'étais passionné, je m'intéressais. J'ai chassé aussi, au début, c'était une réserve de chasse, et bien sûr, j'explique dans le livre comment j'arrête de chasser un jour. Voilà, c'est tout ça. En fin de compte, je pense qu'à 20 ans, j'ai compris où était ma place, quoi. Et je pense que. Quand tu as la chance incroyable à 20 ans de savoir que c'est là où tu vas être bien, là, après tout devient facile. Après, tu peux travailler, tu peux étudier, tu peux lire. Ça te paraît normal de le faire, tu vois. Quand tu as trouvé l'intérêt. Et la grande difficulté, c'est de trouver, quand tu as 16, 17, 18 ans, qu'est-ce que tu as envie de faire dans la vie, quoi, tu vois. Alors, après, tu prends une voie qui n'est pas forcément la bonne. Tu la fais parce que tu dois faire quelque chose, tu es obligé. Donc, ça rassure les parents, mais c'est une connerie. Je pense qu'on devrait partir à l'aventure autour du monde afin de trouver ce qu'on a envie de faire. D'ailleurs, les Anglais ont tous une année sabbatique après leur bac, ce qu'on devrait tous faire en France, je pense aussi.
Clairement.
Voilà, se balader autour du monde avec un sac à dos et rencontrer des autres.
Et c'est cette femme, en fait, en l'occurrence, quand tu étais jeune, qui t'a ouvert sur le monde des animaux, c'est ça, à l'époque?
Exactement, c'est elle qui était passionnée par ça, et donc j'ai pris sa passion. Et puis surtout, elle avait une grande propriété, donc on met beaucoup dans la nature. Et je pense que ce que je suis aujourd'hui vient beaucoup de là, quoi, voilà.
Donc là,
je dois beaucoup.
J'imagine, ouais. On est au début des années 80, c'est ça?
Là, au début des années 80, non, je pars au Kenya, oui.
Pardon.
Au Kenya, oui. Okay. Oui, parce que moi, quand je rencontre ces femmes, ça devait être en 66, tu vois, un truc comme ça. Donc, t'imagines. J'ai 46 ans, j'avais 20 ans, 46 ans. Tu vois, ça paraît fou, hein. 1966. Ça paraît, mais c'est l'époque du rock'n'roll. C'est l'époque, le début de Johnny Hallyday. C'est l'époque des Rolling Stones, il y a deux chanteurs complètement inconnus que j'adorais. Et avec mon meilleur ami, on organise des festivals de rock'n'roll à Nevers, à Moulins, avec des orchestres du Palladium, quoi. Vraiment, c'était. Non, c'est l'époque du rock, quoi. C'est l'époque aussi. Moi, j'étais un fou de rock'n'roll, et donc, encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment l'époque, tu vois, longue crise, quoi, des chanteurs qu'on connaît plus du tout aujourd'hui, mais qui étaient.
Puis il y a eu 68 après aussi qui ouvre encore une nouvelle.
68, j'étais un petit peu à part. J'ai un peu manifesté, mais j'étais déjà installé dans l'Allier.
Oui, t'étais déjà.
J'étais forcément en France pour aider mes copains et lancer des pavés, mais c'était pas. J'étais pas du tout impliqué dans la révolution, tout intellectuel. Non, j'étais pas du tout un maoïste. J'étais pas du tout dans la politique.
C'est fou parce qu'il y a. Il y a quand même, enfin, tu racontes dans le livre que tu as frôlé la mort à plusieurs reprises, quoi. Il y a notamment une anecdote qui est assez connue, c'est que tu as interverti ta place avec.
Thierry Sabine.
Avec Daniel Balavoine.
Thierry Sabine me demande un jour de me donner. En fin de compte, je faisais. Pour le faire bref, quand j'étais au Kenya, je travaillais au Kenya, mon cousin Daniel, à qui j'étais très proche, me dit que tu ne ferais pas faire des photos pour moi. Sur le Safari Rally, qui était un rallye automobile très connu au Kenya, que gagnait souvent Peugeot. Et lui travaillait pour Porsche. Et donc, il me demande de faire des photos des voitures. Et donc, comme je travaillais au téléobjectif sur les animaux, j'ai travaillé pour lui, parce que pour gagner ma vie, parce qu'il faut savoir, pour gagner ma vie aussi, au Kenya, j'étais pilote de montgolfière. Donc, je découvre la photographie aérienne.
Voilà.
Donc, l'interview du ciel vient de là. Parce que quand tu fais une étude sur les animaux, le territoire est très important. Donc, bien sûr, la photographie aérienne donne beaucoup d'informations. Donc, il me demande, Daniel, mon cousin, me demande de faire des photos de voiture. Et donc, je pars faire ces photos de voiture au Kenya. Comme j'étais beaucoup sur les animaux, moi, tu vois, je fais une nouvelle photo, quoi. La photo que je fais est très nouvelle. Donc, on est en retour, on est très publié. Et quand je rentre, et je rencontre là-bas Jackie X, qui était un pilote assez connu de Formule 1, me dit, Yann, écoute, il me rencontre là-bas, il vient me voir au Kenya, il me dit, tu devrais t'intéresser au Paris-Dakar, c'est une course qui se passe en Afrique, complètement folle, avec beaucoup d'aventures, tu devrais t'y intéresser. Et je m'y intéresse quand je rentre en France, moi je suis toujours passionné par l'Afrique, beaucoup plus par l'Afrique que par les bagnoles, et je suis le Paris-Dakar pendant une dizaine d'années, je deviens très ami avec Thierry Sabine, je faisais même les reconnaissances du Paris-Dakar. C'est une autre époque, hein. On me dit, oui, comment toi, écolo, tu pouvais faire le Paris-Dakar, mais c'est autre chose qu'aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, on partait à l'aventure, on était en voiture, c'était une espèce de côté raide, tu vois, raide sans GPS, et je faisais un livre chaque année qui sortait quelques jours après. Je suis aussi un entrepreneur, moi, c'est-à-dire que quand je fais un travail photographique, j'ai cette volonté de faire un livre derrière. J'essaie toujours de faire un objet, c'est pour ça que j'ai fait énormément de livres, et donc Thierry me dit un jour, écoute, là j'en ai marre, tu vas se livrer tout seul dans ta voiture, viens avec moi dans l'hélicoptère, et comme ça je serai associé au bouquin. Il voulait en fin de compte participer à ce livre qui était un peu devenu le livre officiel de Paris-Dakar sans qu'il soit impliqué. Donc j'étais tous les jours dans l'hélicoptère, par contrat je me dis ok, bah, tu t'engages. Alors, il me dit oui, parce que pour moi c'était formidable, je pouvais me poser, mettre dans les beaux endroits, toi. Et un jour il me demande, est-ce que tu pourrais donner la place au chanteur, et le chanteur c'était Balavoine qui suivait la course, qui avait fait des puits, que j'aimais bien, qui était très sympathique. Et donc, voilà, il prend ma place dans l'hélicoptère et il se tue le soir même, voilà. Donc, mais en fin de compte, j'ai plus que le choc d'avoir échappé à la mort, c'est le choc d'avoir perdu des gens que j'aimais bien, quoi. Quand d'un seul coup, tu pars le pilote que je connaissais bien d'hélicoptère, Thierry Sabine que j'aimais beaucoup, et Balavoine qui était un mec génial. Donc, tu perds trois personnes que tu aimes. Donc, plus que le choc de dire j'échappais à la mort, c'est plutôt le choc de dire merde, tu perds des copains, quoi, voilà. Et c'est très brutal, tu vois, un accident d'hélicoptère, c'est terrible, quoi. Tous les décors sont éparpillés en morceaux, quoi. C'est pas un truc marrant. Voilà. Donc, ça. Mais j'ai failli me tuer un jour ou un autre, plus t'en parles aux États-Unis pendant le
Katrina,
et on a perdu le contrôle de l'hélicoptère, et il est descendu en vrille complètement comme ça, et d'ailleurs et on a une chance incroyable, on tombe sur le côté, on tombe dans un arbre qui amortit le choc, et on se tombe sur une maison au milieu de l'eau, sur un toit en shingle, tu vois, le shingle pèse de toit en goudron qui est assez mou, donc l'hélicoptère se casse dessus. On est un peu dans le coma, un peu évanoui, mais on n'avait rien du tout, quoi. On n'avait rien. Moi, j'avais beaucoup de sang sur moi, parce que le pilote s'était coupé un petit peu sur le front, mais il n'avait rien, et moi non plus. Les Américains nous élitreuillent, quoi, avec des gros Black Hawks gigantesques, tu vois. Et moi, on m'emmène sur le porte-avions. Et là, j'ai vraiment cru que j'allais me tuer, parce que j'ai vu en descendant en vrille. Et en hélicoptère, l'hélicoptère, ça me rend très dangereux.
Ouais.
J'estime qu'environ près d'un tiers, c'est pas la moitié des pilotes avec qui j'ai volé sont tués. C'est énorme, 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 énorme. Quand je fais la liste des gens avec qui j'ai volé qui sont tués, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, quand tu es pilote d'hélicoptère ou tu fais beaucoup d'hélico, tu cherches une assurance sur la vie, l'assurance, elle vaut 3 à 4 à 5 fois plus cher, donc tu vois bien. Ouais. Donc il y a plus de risques avec l'hélicoptère. Et j'ai vraiment cru qu'on allait se tuer. Ça, j'étais pas le temps de tu vois pas du tout ta vie qui défile, tu vois plutôt, tu cherches à j'essayais le pilote. Je savais ce qu'il fallait faire, donc je disais au pilote, c'est ce qu'il avait, il le faisait aussi très bien. Et en fin de compte, on avait perdu l'adhérence de la. En fin de compte, d'un hélicoptère, c'est l'hélice arrière qui l'empêche de tourner sur lui-même. C'est l'hélice qui permet de voler droit. Mmh. Et on avait perdu l'adhérence de l'hélice arrière, donc on tournait comme une toupie, à toute vitesse, à tel point que mes portes étaient ouvertes. J'avais un appareil photo et je l'ai perdu par la force centrifuge, tu vois. Et voilà, et donc j'étais persuadé qu'on allait se tuer. Et d'ailleurs, les pilotes m'ont dit, c'est un miracle que vous soyez encore en vie. Et en plus, on est tombé, il y avait de l'eau partout, et on tombe sur une petite maison que de milieu de l'eau, donc un miracle. Après, je me retrouve sur le porte-avions. Et là,
l'anecdote est marrante.
Et là, je me souviens, j'ai mon assistant à cette époque-là, on a pleuré de joie d'être en vie. Mais tu sais, quand tu pleures de joie, c'est-à-dire que tu sais que tu vas mourir, tu le sens, tu vois, et en fin de compte, t'es pas mort. Et tu la vois arriver. Donc, c'est un peu de miracle. Donc, on avait très conscience de ça. Et j'étais tellement ivre de joie que j'étais dans le porte-avions, hôpital, avec un bruit infernal, les télés, ça hurlait, c'était insupportable. Et je voulais boire du vin. Parce que, pour moi, j'étais tout seul. dans cet endroit improbable, porte-avions hôpital américain, tu vois, avec beaucoup de gens qui hurlaient, beaucoup de vieux qui se plaignaient, des infirmiers dans tous les sens, des télés qui hurlaient. Et moi, j'avais envie de vin parce que, en fin de compte, le vin, c'était mon pays, c'était le terroir, c'était mes amis avec qui j'avais partagé ça. Et bien sûr, j'ai pas trouvé de vin et c'est eux qui m'ont dit le lendemain. Mais je pense qu'ils m'avaient shooté un peu pour l'antidouleur. Ça aussi qui m'avait rendu un peu, voilà. Et je me suis retrouvé le lendemain matin, habillé en uniforme de militaire américain sur lequel l'hélicoptère m'a posé. Et là, j'ai remonté dans un hélico tout de suite parce que je voulais pas. Voilà, j'ai dit à mon assistant, tu ne vas pas avec moi, tu restes là. C'est qu'on avait déjà eu un accident avant, qui n'était pas très grave. Et j'ai dit, écoute, on va arrêter avec toi parce que je pense que c'est pas normal que tu prennes, tu risques ta vie parce que c'est pas ton métier. Et voilà. Donc j'ai revolé le lendemain. Et très étonnamment parce que pendant un an, quand je revolais en hélicoptère. Il y a un moment où l'hélicoptère est en, il est presque en limite du décrochage. Alors, un moment où il vole plus, on le sent, quoi. Moi, je le sens très bien. Et mon corps le sentait. Et je me cramponnais aussi. J'étais en train de faire des photos. Il y a un moment, je pouvais plus faire des photos. Comme, inconsciemment, mon corps me disait, c'est là où on a perdu. Et j'avais peur. Oh, j'avais peur. Ça me faisait marrer tout le monde dans l'hélico parce que j'avais tellement fait d'hélicoptère. Mon assistant me disait, mais un nouvel assistant, mais n'aie pas peur, ça. J'avais pas peur. Mais mon corps se souvenait de ce moment où on avait perdu le contrôle et il fallait que je me cramponne au siège. Bon, ça a disparu petit à petit. Voilà.
C'est fou. Et le fait d'avoir échappé comme ça à la mort, ça crée un déclic chez toi,
Non, pas du tout. Non, pas du tout.
J'ai l'impression que tu y as échappé tellement de fois, de toute façon.
Non, faut pas exagérer.
Le fait qu'il y ait un tiers ou la moitié de tes pilotes, tu vois, avec qui t'as volé.
Oui, mais t'en prends pas conscience. Je pense que tu es. Non, certainement, ça n'a pas changé grand-chose. Je pense que de perdre les gens que tu aimes, c'est pas la même chose, quoi. Tu vois, de pas pouvoir dire aux gens que tu les aimes avant qu'ils partent, de pas avoir réglé tes problèmes avec eux, ça c'est plus emmerdant.
Ah ouais, je comprends.
S'ils meurent sans que tu aies le temps de parler, ça c'est une chose triste de pas pouvoir. Et je le dis dans mon bouquin, faut pas avoir peur de dire aux gens qu'on les aime. Et je me souviens dans Human, on avait interrogé une jeune fille algérienne qui disait, mais chez moi, on dit jamais qu'on s'aime. On n'arrive pas à se le dire. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens comme ça.
Beaucoup.
Quoi.
Hein. Beaucoup.
Savoir dire à tes parents que tu les aimes. Après tout ce qui s'est passé entre vous, c'est pas toujours facile.
Ouais, et puis si les parents le disent pas, t'es pas forcément habitué.
Voilà. Mais c'est vrai que mes parents ne savaient pas le dire. Alors que nous, on le dit, on le redit trop d'ailleurs. On a tellement peur que ça se dise pas.
Ouais. Je crois pas qu'on dise assez. Enfin, tu vois, qu'on dise trop qu'on aime.
C'est drôle parce que cet été, une anecdote qui est pas dans mon livre. J'étais avec mes deux garçons et deux aînés et on parlait d'Amazon. Mais ils sont plus radicaux que moi, mes enfants. Donc ils me disaient, ouais, tu commandes sur Amazon. Et alors, bon, je te parle, c'est Google, les GAFA, on s'engueulait et tout. Mais on s'engueulait très très fort, toi, mais vraiment fort. Et à un moment, il se lève. À un moment, je lui dis, écoute, les vacances sont ratées, je vais rentrer à Paris, parce qu'on s'engueulait, tu vois, on pouvait pas rester comme ça. Et mon fils, il se lève, il arrive à 50 centimètres de moi, il me dit, mais je t'aime, en hurlant, et il me prend dans ses bras en pleurant. Tu vois, rien que d'y penser, c'est très très beau de savoir dire ça, de savoir s'engueuler très fort, et de savoir dire, mais c'est pas grave, on s'aime quand même, tu vois. Et ça, c'est une force de savoir le faire, tu vois, c'est une force. Et bravo à lui.
Mais non, mais c'est bravo à toi.
Oui, non, mais, lui, oui, mais
ça,
moi, je suis.
Toi, ça vient de toi.
Moi, ça vient aussi de lui, parce que toi, c'est. Oui. Quand t'as 40 ans, ça, t'es, voilà.
Ah, je sais pas, en fait. Je crois que vraiment, on reçoit beaucoup.
Enfin, c'est vrai.
Tu rends aussi beaucoup de ce que t'as reçu.
Bon,
quoi.
Voilà, ouais, c'est vrai.
Arrête, c'est grave. faut pas non plus minimiser ton rôle, quoi.
Ouais.
C'est intéressant parce qu'en fait, de ton travail de l'interview du ciel, t'es redescendu vers les hommes, tu vois. J'ai trouvé que cette évolution-là, elle était intéressante. Et c'est vrai que ça connote aussi un peu ton travail qui va de plus en plus, je trouve, vers l'amour de l'être humain.
C'est vrai que, en fin de compte, ça vient. Un jour, je suis tombé en panne d'hélicoptère dans un tout petit village au Mali. Et j'attendais que le pilote revienne avec les pièces et un mécanicien. Je suis resté 3 jours là à garder l'hélicoptère avec des gens que j'ai jamais revus de ma vie puisqu'on n'avait pas le GPS à ce moment-là. Vraiment, c'est ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance, quoi. Les gens qui sont loin de tout, voilà. Il avait deux femmes, pas mal d'enfants, 6 ou 7, je pense. Et ils ont tout fait pour moi, quoi. Ils étaient contents que je sois là. Ils ont tué une chèvre pour moi. Ils m'ont raconté leur vie. Moi, j'ai raconté la mienne. J'étais tellement bien avec eux, quoi. Tu sais, c'est un peu comme les gens, tu passes trois jours, ils te racontent leur vie. Et ça m'a tellement appris, quoi. J'ai vraiment l'impression d'être moins con en partant, quoi. Tu vois, parce qu'ils m'avaient appris des choses essentielles sur la vie. Moi qui étais 35 ans, tu vois, très ambitieux, tu vois, qui voulais réussir dans ma vie. Ben eux, ils avaient une autre ambition de vie, quoi. Voilà, la réussite de la vie n'était pas la même que la mienne. Et pourtant, on était si proches. Et donc, je me suis dit, dans tout ce que je fais, il me manque la parole des autres. Et donc, après La Terre vue du ciel, le succès incroyable de ce livre, je voulais aller photographier à la chambre, donc un grand format, en noir et blanc, les gens qui vivaient sous mes photos et poser à tout le monde les mêmes questions sur le sens de la vie et tout. En fin de compte, le succès de La Terre vue du ciel m'a emmené un petit peu ailleurs. J'ai continué à voler, à faire des expositions. Et j'ai monté une équipe de jeunes qui est partie autour du monde, six jeunes avec une petite caméra, poser à tout le monde les mêmes questions sur le sens de la vie avec une cinquantaine de questions qu'on a préparées avec eux. Et on a fait une grande expo qui s'appelait 6 milliards d'autres au Grand Palais, qui était une exposition formidable. Et à un moment, après avoir fait Home, j'ai voulu faire un film qui mélangeait la beauté des paysages sur ces paroles incroyables des gens. Et donc, c'était le film Human, qui pour moi, je pense, est mon meilleur film, que je recommande à tout le monde de voir sur YouTube, qui est gratuit. Ouais. Et c'est pour moi, c'est mon meilleur film. Et ce que je dis souvent, c'est que le film fait 3h20, et si ça avait été moi, il aurait fait 10h. Parce qu'il y avait
de la matière.
Ah, il y a une matière inouïe, quoi. Et aujourd'hui, là, on a fait un film sur les femmes, Woman, ou pareil. Quand tu fais 2000 interviews, tu prends que toi, 2 ou 3%, c'est frustrant. Je te dis, mais les autres, alors, ce qu'ils ont fait, ça sert à rien. Alors, donc, je rêve de faire une grande exposition dans un musée avec tous ces gens qui me parleront. Et on le fera un jour. Et en ce moment, on est en train de faire la même chose sur les réfugiés, voilà. Donc, je pense qu'un jour, on fera un grand truc avec tout ça.
Une anecdote qui m'a beaucoup touché dans ton livre, parce que tu sais, moi, avant de faire ces podcasts, j'ai créé un média féminin pour les jeunes femmes féministes et tout, tu vois, très progressif. Et tu racontes que dans Woman, tu t'es retrouvé entouré quasiment que de femmes, avec une co-réalisatrice,
Anastasia
Mikova. Tu racontes dans le livre que tu... tu t'es un peu écrasé, tu t'es mis dans un coin et t'as écouté, quoi. Et t'as...
Non, mais c'est qu'il y a un moment... Si tu veux, quand tu fais un film sur les femmes, d'abord, je savais que j'allais dans un monde inconnu pour moi. Un monde que je connaissais pas. En tant qu'homme, je ne connaissais pas. Par exemple, je me souviens, au début, ils m'ont tous dit, faut qu'on parle des règles, absolument, c'est important, tu t'en rends pas compte. Bon, moi, j'ai pris ça un peu à la légère. Et quand j'écoutais les femmes qui parlent de leurs règles, c'est un truc qui t'arrive tous les mois, t'es malade, c'est la sexualité. Par exemple, je me souviens très bien d'avoir écouté une jeune fille qui expliquait qu'un jour, elle est passée de jeune fille, de petite fille à jeune fille, comme les hommes la regardent différemment. Tu vois, et c'est très troublant pour une fille. Tu vois, nous, on connaît pas ça, les garçons, tu vois.
Oui.
Donc tout ça et ça les trouble et beaucoup de femmes en parlent, ça c'est une épreuve à passer, comment tu vis ça, quoi, comment les hommes te regardent différemment, tu vois, et bien sûr on parlait d'inceste, comment père te regarde différemment, bien sûr, tout ça, moi, ça. Et donc je me suis aperçu qu'en fin de compte toutes les femmes qui étaient là étaient bien plus capables que moi d'expliquer le film, de faire ce qui était important ou pas. Donc j'ai accepté, pas facilement, mais c'était le bon sens, si tu veux, de se dire, toi t'es un mec, t'es élevé dans un milieu assez macho, t'as pas forcément tout compris, ben laisse les faire, quoi, regarde. Et c'est ça, et je pense que c'est la qualité du film, c'est d'avoir laissé ce... Et on était deux mecs dans le film et je dis pas qu'on s'écrasait, mais on avait des grandes discussions. Et les jeunes stagiaires ou jeunes monteuses qui étaient avec moi, tu vois, m'ont éduqué aussi un petit peu sur ce qu'elles pensaient et tout. Et c'est vrai qu'après avoir fait ce film, je pense à ma mère, à ma femme, à mes sœurs d'une façon différente. Je pense que c'est beaucoup plus difficile d'être une femme. On passe beaucoup plus d'épreuves, c'est évident. Je m'en étais pas forcément rendu. Je le savais, tu le sais inconsciemment. Mais c'est pareil, la force de la parole, ça te pénètre le cœur, pas la tête, donc c'est un peu différent. Et quand tu fais un film pendant 2 ans où tu écoutes toute la journée des femmes, bah, tu deviens femme. Quand tu penses comme une femme, tu vois, j'exagère, mais tu vois ce que je veux dire.
Oh, pas loin.
Tu vois, voilà. Donc, voilà. Et c'est aussi la magie de ce métier, quoi. Ce métier te permet de pénétrer un monde que tu connais pas et d'une façon intelligente, parce que tu sais que tu vas travailler, il faut que tu comprennes. Et on avait les moyens, et il se trouve qu'on ces films, on avait les moyens de filmer beaucoup plus qu'on devait faire, donc on allait encore plus loin. J'espère qu'un jour, on fera fera un travail, une grande expo avec tout ça, parce que c'est pas passé dans un tiroir, c'est pas possible.
Ouais, c'est génial. Je voulais te parler avant qu'on se quitte, mais on aura peut-être encore le temps pour une ou deux questions, mais
vas-y.
De l'image que tu peux avoir vis-à-vis de certains militants, écologistes, etc. Parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Tu as une démarche très pragmatique, je trouve en tout cas, mais qui finit par... où vous finissez par vous taper au sein du même camp, en fait.
Non, pas vraiment.
Okay,
pas vraiment. Raconte. J'étais chez Ruquier samedi soir avec Yannick Jadot pour défendre le nucléaire. Alors que vous savez que le nucléaire, ça fait partie, le mouvement écolo est né sur l'anti-nucléaire. Donc, si tu veux, c'est un peu comme relier ta religion, c'est un peu comme dire à un chrétien, la Bible ou l'évangile, on s'y intéresse plus, c'est un dogme. Et en fin de compte, on s'est pas tapé dessus. Ils nous avaient invités pour qu'on se tape dessus. Et on s'embrassait, en fin de compte, parce qu'on s'aime. Et, je viens d'un milieu bourgeois, avec des moyens, même si je me suis débrouillé tout seul, mais voilà, donc ce mouvement écolo qui est né de gauche, une gauche un peu prolétaire, si tu veux, souvent, mais moi je me sens complètement proche d'eux, et aujourd'hui, avec tout ce qu'on fait, tu vois, j'ai plus besoin de rien prouver aujourd'hui, ça va, j'ai fait mes erreurs, j'ai fait mes conneries, mais moi aussi, j'ai bien compris qu'aujourd'hui, il faut mieux travailler avec Total pour les faire changer que d'aller peindre en noir. Chacun a sa façon de faire, et je soutiens Rebellion Extinction, Greenpeace. Faut savoir que Greenpeace est venu chez moi préparer des actions dans mon studio, tu vois. Donc on est relativement proches. On est les uns avec les autres. Chacun le fait d'une façon différente, et on est tous vers un même objectif. Quand tu défiles avec les jeunes à Glasgow, je me sens presque de Greta. Tu vois, Greta, c'est mon idole. Moi, c'est la personne que je respecte le plus au monde, parce que elle a réussi à créer un mouvement que jamais on a réussi à faire. Donc, tu vois, on est un peu dans l'échec. Nous, toutes les ONG, on n'a pas fait changer grand chose. Elle, ce qu'elle fait, c'est inouï. Donc, voilà. L'image que j'ai, et j'étais assez attaqué à un moment, sur les mécènes de mes films, tout ça, mais bon, aujourd'hui ça l'est beaucoup moins. Et je pense qu'aujourd'hui mon rôle, c'est de parler à tout le monde, voilà. On n'est pas enfermé. Et surtout, j'ai compris que il n'y a pas d'un côté des méchants et d'un côté des gentils. Il y a certainement autant de cons chez les écolos qu'il y en a chez Total, quoi. Voilà, je veux dire, j'exagère un petit peu, mais tu vois ce que je veux dire. On doit avancer les uns avec les autres et pas les uns contre les autres. Oui, on finit par la même chose, quoi. C'est l'amour, toujours, quoi.
J'allais te dire.
Voilà, il faut savoir aimer les gens qui ne t'aiment pas, C'est comme ça que ça marche. Et voilà. Quand tu aimes les gens qui t'aiment pas, ça les déstabilise un petit peu, et de toute façon, la haine te rend con, hein. Il faut savoir pardonner, il faut savoir accepter que l'autre est différent, sinon tu as du mal à avancer. C'est pas un truc que j'ai découvert il y a très longtemps, mais j'essaye en tout cas.
C'est pas un truc que tu as découvert il y a très longtemps?
Oui, en vieillissant, tu t'améliores un petit peu. Tu grandis, comme moi j'ai l'impression de ne pas vieillir, mais de grandir, voilà. Voilà.
Ouais, c'est intéressant.
Mais aussi, quand tu as passé le... Tu sais, quand tu es photographe, t'es toujours à la recherche de projets. Il y a une insécurité en permanence parce que t'es pas employé, donc faut toujours trouver des projets. Enfin, et à un moment, quand t'as relativement réussi, très relativement, ça t'assoit un petit peu. Tu dis bon, maintenant ça va. T'es arrivé là où tu es. Qu'est-ce que tu peux faire de plus, quoi? Comment tu peux t'améliorer encore? Et tu t'aperçois que t'améliorer, de devenir meilleur, c'est certainement de savoir pardonner, et surtout de reconnaître, savoir ce que tu es, où tu es, quoi. Ce que tu es. Moi, je sais très bien où je suis mauvais, où je suis pas bon, où je dois faire un effort. Il y a pas très longtemps, faisant ce livre, c'est drôle. Ça montre bien dans quelle époque je suis maintenant, comment j'essaye d'être. J'essaye. Il y a mon copain qui me disait, quand tu travaillais sur Vue du Ciel, t'étais insupportable. Et est-ce que tu sais qu'il y a un mec qui a été viré à cause de toi? Tu l'as tellement engueulé qu'il a été viré. C'est très injuste. On en parle il y a 15 ans. Et je dis, ah bon? Et il m'explique. Du coup, je retrouve le mec.
C'est vrai.
Pour m'excuser. Le mec, il vient à Los Angeles. Et je l'ai appelé. Je dis, écoute, salut, c'est Yannard Supertramp. Là, j'ai appris ça. Je voulais m'excuser. Le mec, c'est pas grave. Il y a longtemps que j'ai oublié. Mais toi, ça me faisait chier de penser qu'un mec était. Et donc, il fallait que je le retrouve pour m'excuser. Alors, ça l'a fait rigoler. Et voilà. Et c'est bon. Je sais pas s'il m'a pardonné, mais en tout cas, je l'ai fait. Et c'était bien de le faire. Voilà.
Merci beaucoup Yann, vraiment. Bah, écoute, c'était hyper intéressant. Je mettrai tous les liens vers pour acheter les livres, aller aussi.
Non, faut pas. Pas obligé d'acheter les livres.
Vous n'êtes pas obligé d'acheter les livres, très bien. Pour aller voir tes films aussi, qui
avec
sont pour le coup.
Legacy, Livre de droit, Human, Livre de droit, comme beaucoup d'autres films.
Et puis le site aussi de cet endroit où on est.
Voilà. Planète aussi on... ici, c'est l'endroit où on est, endroit formidable où règne, j'espère, la bienveillance. Et toi, j'invente un mot entre bienveillance et gentillesse, les deux mots ensemble. Où règne la gentillance, la gentillance, c'est beau ça.
C'est beau. Voilà.
Non, un endroit où c'est vrai que j'aimerais bien que ici il y a de la bienveillance, il y a de la gentillesse. C'est un endroit où il y a 350 bénévoles qui viennent, qui donnent une vraie couleur à cet endroit. Et puis c'est aussi un endroit où on parle aussi bien du carbone qu'on va parler d'une école de cuisine. Il y a un escape game sur le carbone. Il y a des films qui passent, des conférences, et tout ça, c'est gratuit, ouvert à tous. Alors on a un peu du mal à financer tout ça, mais on y arrive en se battant. On fait d'ailleurs une tombola bientôt pour en parler. Mais en tout cas, voilà, c'est un endroit que et d'ailleurs le livre est dédié à tous les gens qui travaillent ici. Voilà. Qui me rendent meilleur, voilà. Parce qu'ils ont souvent encore plus d'énergie que moi, plus envie de changer le monde.
J'ai l'impression que t'aimes bien être entouré des jeunes. Ça fait 3-4 fois que tu le cites, là.
Ben, je me sens jeune. Tu sais, l'autre jour, j'ai fait un discours à l'Académie, donc toi, je suis académicien des Beaux-Arts.
Waouh.
Donc, tu vois, j'ai fait un discours très engagé. Et le bide total. Mais le bide total, c'est-à-dire que je fais un discours sur devenons l'académie, l'institut, devenons l'endroit des solutions, l'endroit où peut se retrouver les gens qui veulent changer le monde. On devrait inviter Greta Thunberg à parler sous la coupole. Toi, c'est une tortue d'académicien, toi. Tu vois, donc tout un truc. Et alors, rien. Il se passe rien à la fin. Toi, d'autres personnes discours après moi. Je demande que toute l'académie, les 500 personnes de toutes les académies s'engagent pour le climat, en disant que nos enfants seront fiers de nous, quoi, des grands mots. Et le bide total. Et je me perçois qu'il y a une génération qui a pas envie de bouger, quoi, qui a pas envie de jouer. Alors que les jeunes, j'ai fait l'autre jour une conférence dans une école d'ingénieurs, avec des jeunes, il y avait 1000 gosses. Mais putain, la standing ovation qu'on a eue et surtout l'intérêt qu'il y avait. Le lendemain, je suis rentré en voiture d'un festival et j'ai pris des rendez-vous pour parler avec eux. Eh bien, il y avait 5 jeunes qui avaient pris un groupe de 10. Ils m'ont appelé au téléphone tout le temps pour me parler, m'expliquer. Une espèce d'envie de connaître, de trouver la solution, de qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors que moi, je peux pas dire à un ingénieur aéronautique ce qu'il faut faire, j'en sais rien. Mais tu vois, une envie véritablement de... une inquiétude, comment je vais vivre dans ce monde, quoi. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et voilà. Et moi, je me sens comme ça. Donc, je me sens sans doute plus près des jeunes. Mais je suis pas le seul comme ça, hein. J'ai comme pas mal de copains de mon âge qui sont pareils. Mais tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une génération qui a abandonné un petit peu le truc en se disant, ben voilà, c'est comme ça. Comme si on n'avait pas envie de reconnaître nos erreurs. Alors, on n'est pas coupable. On ne savait pas tout ça. Voilà. Donc, ça remet en question beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est là d'où vient le mot, quand tu dis le mot décroissance, c'est comme c'est un mot le plus grossier du monde. Mais c'est pas grossier, des croissances. La post-croissance, on va y aller forcément, donc faut mieux s'y préparer, et personne n'a envie d'en parler, voilà. Parce que bien sûr, la croissance, c'est ce qui nous fait vivre. Moi, je vis de la croissance avec mes mécènes, la fondation est financée par des gens, voilà, c'est la croissance qui paye nos écoles, qui paye les hôpitaux, qui paye les routes, donc voilà, c'est difficile. Voilà, le pouvoir d'achat, les emplois, mais il faut bien falloir qu'on s'y prépare, quoi, de devenir aveugle.
Ouais.
Faut vivre avec les yeux ouverts et savoir dire la vérité en face, quoi.
Et ben voilà.
De ne pas avoir le courage de la vérité. Voilà.
On va boucler là-dessus. Merci beaucoup, Yann. C'était super.
Mais t'es mignon, t'es gentil. Je t'embrasse.
Je suis mignon.
Et je t'aime.
Oh, mais moi aussi, je t'aime. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcasts et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Macha Chose qui a écrit. Comme toujours avec les podcasts de Fab Florent, on a l'impression d'être une petite souris. Les invités sont intéressants, tout comme leur parcours de vie. On rit, on s'interroge, on apprend, et on apprend aussi sur soi. Merci Fab, tes podcasts sont inspirants. Eh ben merci beaucoup, ça fait plaisir. Et si vous voulez faire comme elle, vous vous rendez sur Apple Podcasts et vous cherchez Histoire de succès directement dans votre appli ou sur votre ordinateur. Merci beaucoup à vous et rendez-vous jeudi matin à la même heure, à partir de 6h du matin, dans votre appli de podcast pour un nouvel épisode d'Histoire de succès.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.